Place Info.
Bonsoir. À la une, Emmanuel Macron et après, travailler davantage, éducation, égalité des chances, police, ouverture des frontières. Nous reviendrons bien évidemment sur cette allocution d'hier soir. C'est dans les informés avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop le dimanche sur Arte, avec Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris, Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info, et Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet TEN. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Mais que signifie donc ce travailler et produire davantage, expression mystérieuse utilisée par Emmanuel Macron lors de son allocution hier soir? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, avait une idée assez précise sur la question sur France Info ce matin.
Ça veut dire travailler tous. C'est ça le défi qui est...
C'est pas la même chose, travailler devant... tous et travailler davantage.
Ah, si, ça veut dire qu'il faut que le plus grand nombre de Français puissent trouver un travail. Dans une période où, je l'ai dit, nous anticipons 800 000 suppressions d'emplois en France. C'est ça notre objectif partagé, que tous les Français puissent trouver un travail. Et je trouve que l'intervention du président de la République avait, de ce point de vue-là, le double mérite de la clarté et de la fermeté.
Clarté, vraiment, Maya Daboulos?
Et l'expression, enfin l'explication de texte de Bruno Le Maire est assez amusante au fond.
Travailler tous.
Le travailler plus devient travailler tous. On voit manifestement que effectivement c'est une manière d'expliquer les choses, la réalité. Et d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait déjà annoncé lorsqu'il était ministre. On se souvient d'un off qu'il avait fait avec des journalistes sur la fin du carcan des 35 heures qu'il souhaiterait. Selon lui, donc on suppose que c'est un peu la fin pour lui de la vision un peu descendante, jupitérienne du temps de travail, sans forcément nécessairement aller vers une remise en cause générale du temps de travail, mais en tout cas vers la possibilité de négociation au niveau des entreprises.
Éric Delannoy, vous qui êtes économiste de formation, travaillez tous, travaillez plus, vous avez traduction ?
Oui, on peut avoir une traduction, bien évidemment. Enfin, d'abord, ça n'a échappé à personne que depuis le confinement, avec les, il y a 12 millions de salariés qui n'ont plus travaillé, 40% d'enseignants qui n'ont pas travaillé. Donc, travailler plus, c'est se remettre au travail aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais c'est aussi, une espèce d'allusion au fait que le taux d'emploi en France est un des plus faibles d'Europe, voire de l'OCDE. Donc, ça, c'est un fait établi depuis longtemps, il y a plein d'explications à ça. Et donc, on peut se dire que dans la mesure où il faut créer de la richesse, il faut travailler plus. C'est pas choquant.
Il n'y a pas une petite musique derrière, Éric Delannoy, même si Bruno Le Maire, ce matin, de mémoire, a balayé l'idée que des Français pourraient rendre des congés ou faire, on veut travailler au-delà des 35 heures. Apparemment, ce sont des sujets tabous, ça.
Il n'y aura pas de nouvelle loi de 35 heures. Ça a été dit, répété, archi-répété. En revanche, l'idée macronienne qui consiste à faire en sorte d'aller au plus près de la décision va se faire là comme ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, on va laisser les entreprises regarder quelles sont leurs propres contraintes et faire en sorte de rattraper les retards de production potentiellement en faisant des accords d'entreprise, voire des accords de branche. Mais à mon avis, ça sera plutôt des accords d'entreprise.
Entreprise plutôt que branche, d'accord, ok.
Oui, bien sûr, et c'est une idée importante depuis le début du quinquennat d'ailleurs, de revenir au plus près de l'entreprise. Il avait été dit depuis le début que l'erreur des 35 heures, ce n'était pas les 35 heures elles-mêmes, c'était la généralisation des 35 heures.
Nora Hammadi, vous sentez un déverrouillage peut-être du marché du travail, des accords demain?
Alors on l'a vu dans toute l'Europe, ce déverrouillage en fait en temps de crise. On voit effectivement que dans la plupart des pays, il y a une tentation en fait d'un recul selon les syndicats de cet encadrement, notamment du temps de travail, pour des nécessités en fait de retour à la productivité, de rattrapage, etc. La difficulté, c'est que quand il y a un recul, en général, en fait, on la reconquête des droits se fait difficilement, et c'est un petit peu ce que les syndicats pointaient notamment en France. On se souvient de la proposition en fait du MEDEF, justement, de travailler plus, qu'il allait falloir ce rattrapage qui avait été validé par Agnès Pannier-Runacher. On avait senti là aussi un flottement du gouvernement pendant cette période de confinement autour de cette question du temps de travail, et là effectivement, enfin, je pense que de fait entendre se travailler davantage de facto va vouloir dire sortir de ce qu'on appelle un carcan, mais de fait il va falloir effectivement l'encadrer si on ne veut pas que ce soit un recul global sur la question du temps de travail. J'en profite pour dire que, par exemple, en Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern a décidé de passer la semaine de 4 jours pour relancer le pays et diviser les emplois.
Le partage du travail ou l'augmentation du temps de travail, c'est toujours l'éternel débat. Gilles Bernstein, on a l'impression que ça sent quelque chose qui va phosphorer dans les prochains mois. Là.
Oui, je ne sais pas si c'est plié, si la décision est prise, parce que effectivement, on se posait tous la question hier, et si Bruno Le Maire dit que ce n'est pas, en gros, il dit pas que c'est travailler plus, il dit que c'est travailler tous, qui est un peu l'inverse du travailler plus. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si on fait pas un contresens quand on dit que il y aura des accords d'entreprise pour travailler plus. Moi, je me demande si ça ne sera pas des accords d'entreprise pour travailler moins. Mais évidemment, en échange d'une
travailler mieux.
Oui.
Ou travailler mieux, dit Eric Delannoy.
D'accord, ça, c'est ce que dit le patron. Très bien. Travailler moins en échange d'une baisse de rémunération, parce qu'on sait qu'on a des entreprises qui n'auront pas les marchés ou le chiffre d'affaires suffisant et qui souhaiteront que leurs salariés travaillent moins.
Et Muriel Pénicaud l'a posé aussi.
Pour les payer moins.
Quand donc, ça n'est pas une baisse de rémunération, Maya Daboulos, tout en travaillant autant.
Ouais. Que dites-vous,
Maya Daboulos? C'est la salariée qui dit ça. Oui.
Non, je dis tout, alors, quand ça n'est pas gagner moins tout en travaillant autant.
Mais Maya Daboulos,
la
relocalisation, qui était une sorte de mot d'ordre implicite hein, pendant le confinement, vous avez l'impression que ça va être un peu compliqué aussi? Parce qu'après tout, faire revenir les usines, il faudrait baisser les charges, il faudrait changer le système.
Peut-être, mais en tout cas, je pense que sur certains sujets stratégiques, notamment, on a pas mal parlé de la relocalisation des industries sanitaires.
Du médicament, notamment.
Du médicament, notamment. Alors, pas forcément en France, mais en tout cas au niveau de l'Europe. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Simplement, ça nécessite du temps, évidemment, et ça nécessite de se mettre d'accord entre pays européens.
Éric Delannoy, c'est réaliste de parler de relocalisation?
Ça sera un chantier de moyen terme et de long terme. Voilà. Si vous voulez payer le Doliprane 10 euros plutôt que 2 euros la boîte, on peut relocaliser rapidement. La relocalisation, ça suppose plusieurs choses. De travailler sur la productivité, de travailler sur les écosystèmes d'entreprise. Une entreprise n'est jamais seule à travailler. Pour pouvoir relocaliser, il faut avoir des compétences, il faut avoir des sous-traitants. Donc, il faut recréer un tissu industriel. Ça ne se fait pas en 3 minutes. Plus le fait que la productivité, il faut réussir à le trouver. Cela dit, on parlera des égalités des chances tout à l'heure, mais sur la filière des masques, on a déjà relocalisé une partie de la filière des masques. Oui, avec des problématiques d'inclusion.
Et ça produit beaucoup de masques aujourd'hui, ce qui nous aura manqué il y a 3 mois, 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause, c'est le Fil Info avec vous, Frédéric Bagnada.
D'importants renforts envoyés ce soir à Dijon, plus d'une centaine de policiers et de gendarmes après les violences inédites du week-end dernier, plusieurs expéditions punitives menées par des dizaines de Tchétchènes. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue pour venger un jeune de 16 ans agressé par un dealer ce soir. De nouveaux incidents ont éclaté dans le quartier des Grésils. Plus besoin dès demain d'une attestation d'employeur pour prendre les transports en commun en Île-de-France aux heures de pointe. Décision du préfet de région qui encourage tout de même les employeurs à maintenir le télétravail et les horaires décalés dans la mesure du possible. Mais le port du masque reste obligatoire pour emprunter les transports en commun en Île-de-France. L'Europe se déconfine, la Chine, elle, se reconfine. Plus de 100 nouveaux cas confirmés à Pékin. Les sites sportifs et culturels sont à nouveau fermés. Les contrôles de température aux entrées des zones résidentielles et des bureaux ont également été rétablis. Et puis de la prison ferme pour les 6 prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi. Des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme pour d'anciens proches de l'ex-premier ministre Édouard Balladur. Ils étaient jugés pour leur rôle dans un système de commission occulte sur des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Pour le tribunal correctionnel de Paris, il ne pouvait ignorer l'origine douteuse des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle de 1995.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Encore un mot sur l'économique avant de parler de l'égalité des chances évoquée par Éric Delannoy à l'instant. Nora Hammadi, vous avez senti un virage, un souffle vert, verdoyant hier soir dans le discours d'Emmanuel Macron?
Alors non, c'est pas du tout ce que j'aurais senti. Bizarrement, je pense que je dois être à l'image de la majorité des Français qui, dans un sondage en fait publié ce soir par Les Échos, entre autres, disent qu'ils n'ont pas du tout été convaincus par le chef de l'État. De mémoire, c'est autour de 38%. Donc non, on a plutôt le sentiment en fait, on s'attendait à ce qu'on nous fixe un cap, qu'il y ait des annonces, etc. De fait, la teneur de l'intervention présidentielle a été finalement assez creuse là-dessus, et tout ceci est renvoyé à une intervention qui se tiendra donc certainement mi-juillet, hein, le 14 juillet. Donc ça nous a laissé globalement sur notre faim. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que on est resté beaucoup dans le slogan, hein, la question de la reconstruction dans une dimension de solidarité, d'écologie, etc., de souveraineté. Voilà, on est beaucoup dans le slogan, mais derrière, en fait, il va falloir mettre tout cela en musique, et tout ceci reste globalement très...
Bon, il faut attendre la suite, c'est au mois de juillet. Hein.
Oui, mais de fait, alors dans ce cas-là, oui. la question qui se pose, c'est pourquoi prendre
nébuleux.
La parole.
Oui. Ah, le mot que tu cherches,
pardon.
Nébuleux.
Nébuleux, merci.
Nébuleux, dit merci. Gilles Bernstein. Maya Daboulos.
Nébuleux, mais néanmoins un peu moins conceptuel qu'habituellement, d'ailleurs, sur la forme. Moi, je dirais qu'entre l'évocation de la question de la souveraineté, du patriotisme, du travailler plus. Au fond, on est un peu sur une normalisation. Je m'explique, j'ai l'impression quand même qu'on est revenu à un discours assez classique d'un président de droite. Il y a eu président de la République sous la Ve, dont 6 de droite, et je trouve que Emmanuel
président
Macron...
Président de droite, vous dites-vous, ce
oui,
soir.
Oui. Enfin, en tout cas, son discours était assez classique dans le chevènementau gaulliste, ouais. Que ce soit sur le plan
tout ce
économique...
Qu'il y avait de non-nébuleux, finalement.
Sur le plan économique, posture. Sur le plan diplomatique. Comme sur le plan social, voire même sur le plan sociétal, puisqu'on y reviendra, la conception anti-communautariste et l'usage du terme indépendance, quand même, qui est revenu de très nombreuses fois dans son discours. Au fond, je trouve que c'était un discours assez classique.
Gilles Bernstein, oui.
Mais moi, je vous admire d'arriver à tirer des conclusions de l'intervention d'hier. C'était un discours de pas grand-chose. Parce que ce qu'on a dit, voilà, il se réserve. Alors, il le fera, il le fera pas, j'en sais rien. En juillet, on verra s'il y a effectivement des directions, des tournants, des inflexions, des grands caps, du storytelling, de tout ce que vous voulez. Mais hier, clairement, il était là pour enfin annoncer des bonnes nouvelles, annoncer le déconfinement des restaurants, annoncer que les enfants rentreraient à l'école parce qu'il en avait un peu marre que ça soit Édouard Philippe qui les raconte et que ça soit lui qui prenne les points de popularité. Donc il s'est dit, bah, c'est toujours un truc de plus que je vais prendre moi-même et qui sera pas crédité à Édouard Philippe. Et puis pour le reste, je vais acheter du temps. Je vais faire une bande-annonce, je vais acheter du temps.
Comme quoi ça n'imprime pas. C'est-à-dire que c'est la dimension en fait, de stratégie politique n'imprime pas non plus.
Éric Delannoy, le président de droite, vous répondez à ça aussi également?
Non, moi je trouve que c'est un président de rien du tout.
Président de quoi vous dites?
Non, mais il n'a pas.
Le champ lexical était celui-là.
Non, mais je trouve que le champ lexical n'était pas.
Il a parlé de l'économie sociale et solidaire.
Juste un instant. Le champ lexical n'était pas nouveau. Il a dit qu'il voulait refonder l'économie avec du social, il l'avait dit. Avec de l'écologie, il l'avait dit. Maintenant, le régalien, ça s'appelle la souveraineté. Enfin, il a rajouté la souveraineté et il a mis du régalien, du patriotisme. Ce qu'il a rajouté, effectivement, par rapport au discours d'avant le Covid, c'est la souveraineté. Mais il a redit, sans en dire tellement plus qu'avant, tout ce qu'il avait déjà dit. Et maintenant, il faut attendre juillet, puis on verra.
Des slogans, c'est des phrases creuses. Un cap, c'est fixer une direction sans aller dans le détail. Donc, je sais pas pourquoi on parle de slogan et qu'on parle pas de cap. Par ailleurs, enfin, je sais pas si c'est nébuleux de dire qu'on ne déboulonnera pas les statuts et qu'on ne touchera pas à l'histoire de France. Enfin, il a été d'une sévérité et d'une clarté absolue. Il y a rien de nébuleux dans ce qui a été raconté. Pour le reste, il a fixé un cap. Ce n'est pas à lui d'aller dans le détail de la manière dont on va aller sur plus loin dans l'égalité des chances. Et je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont en train de se faire.
Parmi les annonces présidentielles hier soir, en réponse, si je puis dire, à la mobilisation depuis deux semaines contre le racisme, Emmanuel Macron, dans son allocution, a promis de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances. Avant d'aborder cette question, je voudrais que vous réagissiez à l'annonce qui a été faite sur France Info ce soir, alors en marge de ces manifestations, et parce que les policiers, eux aussi, eh bien, défilent dans la rue. Dans une note envoyée ce lundi et dont France Info a eu la connaissance, eh bien, le directeur général de la police nationale explique que la technique dite de l'étranglement va continuer d'être mise en œuvre avec mesure et discernement, et un groupe de travail va s'installer pour voir comment est-ce qu'on peut finalement transformer cette mesure. Là-dessus, Maya Daboulos, c'est un recul du gouvernement et un recul du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Oui, clairement, c'est un recul. Après, c'est pas une grande surprise, effectivement. Lorsque la fin de cette technique a été annoncée, il n'a pas été annoncé qu'elle était remplacée par quelque chose. On peut regretter les termes, on peut regretter son appellation. C'est vrai que quelque chose qui s'appelle une technique dite d'étranglement, les termes sont quand même un peu malheureux, c'est le moins qu'on puisse dire. La question, elle est la manière dont elle est utilisée, les objectifs pour lesquels elle est utilisée, et si elle est utilisée à bon escient. Ça n'est pas une surprise, en tout cas.
Oui, Nora m'a dit, reculade de Christophe Castaner, ça le fragilise un peu quand même, non?
Oui, non, mais Christophe Castaner, de toute façon, complètement fragilisé dans cette séquence, et sa fragilisation a démarré déjà lors des successifs week-ends de Gilets jaunes autour de ces questions de violence policière, entre autres. Après, la problématique, en fait, de cette technique, c'est qu'il avait été question de la remplacer, mais par un usage encore plus systématique, en fait, des tasers. Des pistolets à impulsion électrique. Et on sait à quel point l'usage du taser est potentiellement encore plus dangereux. Je ne dis pas que la clé d'étranglement l'est pas. On sait que Cédric Chouvia, par exemple, qui a été, qui est mort étouffé via ce système de clé d'étranglement. En fait, le nombre de morts via cette méthode est absolument incroyable. Et il va falloir de toute façon poser cette question de la doctrine de maintien de l'ordre en France, comme d'autres pays en Europe l'ont fait.
Gilles Bornstein, un groupe de travail sera chargé de définir une technique de substitution. Ça s'appelle un enterrement de première classe, non ?
Oui, ça s'appelle un enterrement de première classe. Mais alors politiquement, vraiment, là, c'est pas nébuleux. C'est une séquence catastrophique pour le gouvernement. Parce que, vous savez, moi, j'ai toujours l'impression que les autres sont beaucoup plus rationnels que nous et que tout cela avait été pensé. On s'est dit quand même, Macron, il a pensé son truc. Il envoie Castaner au casse-pipe pour ne pas avoir à faire les choses lui-même. Mais au moins, c'est bien pensé. Mais rien du tout. C'est catastrophique. C'est-à-dire que Castaner fait un pas vers les manifestants. Les flics sont pas contents. Et deux jours après, on refait un pas vers les flics. Résultat, je pense que le gouvernement va perdre vraiment dans toutes les... De toute façon, on sait que c'est des domaines où vous ne pouvez pas gagner de tous les côtés. Il faut être très équilibré, très subtil et très précis sur les termes. Mmh. Et là, je crains que vraiment, il soit châtié, le gouvernement, dans l'opinion, à la fois par les manifestants et par les forces de l'ordre. Et Christophe Castaner, n'en parlons pas, là, pour le coup, ça devient compliqué.
Éric Delannoy, cette clé d'étranglement, le retour en attendant un nouveau cadre, on peut dire ce soir que le ministre de l'Intérieur mange un peu son képi?
Ah oui, je suis d'accord sur le fait que c'est une séquence qui est pas très heureuse, tout ça. Donc, je suis aussi d'accord avec le fait que, à penser que tout est toujours pensé, on surinterprète tous les événements et tous les propos. Donc, ça, c'est une particularité de la France. Maintenant, c'était évident que le principe de réalité devait arriver. Moi, je suis bien d'accord que c'est des techniques qui sont dangereuses, mais il faut voir aussi dans quel cas elles s'appliquent. Elles s'appliquent pas pour interpeller quelqu'un qui est juste là. Ça s'applique dans des domaines très rares dans lesquels on a une infériorité physique patente. Quand vous avez fait des arts martiaux, je peux vous garantir que la clé de l'étranglement, elle est uniquement là pour pouvoir maîtriser des gens qui sont supérieurs à vous en physique. Et donc, soit vous acceptez qu'on n'interpelle plus des brutes, parce que ça s'appelle aussi des brutes, ces gens-là.
Alors, Cédric Chouviat n'était pas une brute.
Dans des exemples. Soit on accepte de ne plus interpeller des cas graves de violence, soit on fait en sorte de trouver... Moi, je pense pas qu'il y aura de substitution. Donc, c'était une erreur d'en parler, de toute façon.
Allons reprendre le fil des informés avec l'égalité des chances dans un instant. 20h20 sur France Info, c'est le fil info avec vous, Frédéric Bagnada.
Le rétropédalage de Christophe Castaner, la clé d'étranglement à nouveau autorisée selon une note du directeur général de la police nationale. Cette technique continuera d'être mise en œuvre avec mesure et discernement en attendant une autre solution, précise le document. Plus de 100 nouveaux cas de Covid-19 confirmés à Pékin. Résurgence de l'épidémie dans la capitale chinoise avec l'apparition de plusieurs nouveaux foyers. Les sites sportifs et culturels sont à nouveau fermés. Les contrôles de température aux entrées des zones résidentielles et des bureaux rétablis. En France, l'attestation employeur ne sera plus obligatoire dans les transports en commun d'Île-de-France aux heures de pointe dès demain. Un nouvel assouplissement qui était d'ailleurs réclamé par Valérie Pécresse, la présidente de région. Le port du masque reste, lui, obligatoire. Protocole sanitaire allégé également à l'école. La distanciation physique sera désormais beaucoup moins contraignante. Un mètre latéral et non plus 4 mètres carrés par élève. Un dispositif dévoilé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. La responsabilité de la ville de Paris dans l'explosion de la rue de Trévise, confirmée par l'expertise définitive de la justice, elle est bien due à une rupture de canalisation de gaz à cause d'un affaissement du sol. L'explosion avait fait 4 morts en janvier 2019. Et puis dans le volet financier de l'affaire Karachi, la justice condamne les 6 prévenus dont Nicolas Bazir et Ziad Takeddine à des peines allant de 2 ans à 5 ans de prison ferme. Édouard Balladur et François Léotard seront eux jugés ultérieurement par la Cour de justice de la République.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Mais quelle décision forte pour l'égalité des chances y aura-t-il ? Tiens, question des statistiques ethniques, comme l'a suggéré Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement sur France Inter ce matin.
Je crois qu'il faut toujours faire attention, et ça fait partie de mon engagement à En Marche, entre les droits formels, ceux qu'on écrit sur le papier, puis les droits réels. Le droit formel, il dit que oui, en fait, en France, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de ségrégation. Mais la réalité, le droit réel, c'est que quand vous êtes black, vous mettez plus de temps à trouver un emploi, à trouver un appartement, à vous insérer dans la société. Vous avez plus de barricades autour de vous pour réaliser vos possibles.
Maya Daboulos, elle s'est avancée, la porte-parole du gouvernement, mais elle explique certaines choses. Elle parle de racisme impensé et au fond d'une société discriminante. Il faut bien la quantifier à un moment abandonnée. Elle défend cette idée qui est assez contestée pendant le gouvernement d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Après, je ne pense pas qu'elle se soit avancée. Il est aussi de son rôle en tant que ministre de mettre des idées sur la table. Et tant qu'un arbitrage n'est pas rendu, très bien, il est important que le débat puisse se tenir. Bon, après, la question de la quantification peut se poser. En réalité, mais posons-nous la question de à quoi servent ces statistiques ethniques ? Est-ce qu'elles servent à objectiver le fait qu'il y a des discriminations en France ? C'est l'existence de cette discrimination est objectivée et quantifiée et d'ores et déjà, il y a la possibilité en réalité de réaliser des statistiques par plein d'études, à condition que ce soit autodéclaratif, volontaire et anonyme. De nombreux organismes peuvent d'ores et déjà faire ces études. Deuxièmement, il y a l'existence de ce qu'on appelle les testings. Oui. C'est-à-dire envoi, par exemple, de CV.
Qui, semble-t-il, devrait être développé d'après Julien de Normandie.
Tout à fait. Et comme l'a rappelé le défenseur des droits encore récemment lors de la remise de son dernier rapport, Jacques Toubon a, par exemple, rappelé qu'une personne d'origine noire ou arabe a 20 fois plus de risques d'être contrôlée qu'un mâle blanc. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? En fait, les statistiques ethniques, c'est un changement trop important. Un véritable changement anthropologique qui est tellement important qu'on ne peut pas le faire juste pour la beauté du geste. Donc il faut vraiment se demander est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose ? Pour ma part, je trouve que la question de l'objectivation des discriminations a déjà été faite. On sait que ça existe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus ?
Nora m'a dit droit formel, droit réel, hein, défendait Sibeth Ndiaye à l'instant. C'était assez audible comme argument. Est-ce que, selon vous, il faudrait instaurer ce type de façon peut-être anonyme de statistiques pour vraiment avoir une anatomie, si je puis dire, de ce qui se passe en France.
Alors, Mayala Daboulos le rappelait, hein, effectivement, dans le cadre d'études, c'est encore possible. Hein, je pense à l'étude de trajectoire et origine,
absolument,
en fait, qui le fait depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, on a une objectivation, effectivement, une espèce de cartographie, mais qui n'est, à mon sens, pas suffisante. De fait, vous évoquiez à l'instant la possibilité de faire des testings. Julien de Normandie rappelait qu'il allait encore envoyer une vague de CV anonymes, etc. Il y a la possibilité de faire du name and shame. On voit, ça fait des années, c'était déjà le cas sous Myriam El Khomri à l'époque où elle était au ministère de la Ville. Donc ça renvoie quand même à une époque révolue où on a fait du name and shame, on a fait du testing. Les revendications aujourd'hui autour de ces questions de discrimination sont les mêmes qu'en 1983 lors de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc à un moment, en fait, on a beau objectiver, rien ne bouge. Donc, faudra-t-il aller plus loin de telle sorte, en fait, à ce que véritablement on pose, et c'est ce qui est, par exemple, possible chez nos voisins anglais, de vérifier, mais là, je me tourne vers mon collègue économiste, d'objectiver, mais sur le coût économique de ces discriminations. Car c'est ça aussi. Je renvoie juste, en fait, au fait que les discriminations poussent aujourd'hui à une fuite des cerveaux, des gens qu'on a formés ici en France. On paye ces gens. Alors, et ils sont formés en France et ils finissent au Canada, en Australie, au Moyen-Orient, en Afrique, car ils ne trouvent pas de carrière ici.
Alors répondez, Éric Delannoy.
Moi, je suis assez mal à l'aise avec le fait d'objectiver économiquement le coût des discriminations, parce qu'il suffirait de se dire que finalement, il n'y a pas de coût pour qu'on arrête. C'est-à-dire, il y a une question morale derrière la discrimination. Il n'y a pas de question économique, de mon point de vue. Enfin, moi, je travaille sur un projet d'égalité des chances. Hein. C'est mon projet entrepreneurial. Donc, je vis avec tous les jours. On a un problème de déterminisme social en France. Et il y a deux manières de le corriger. Les corriger à la racine et les corriger à la correction. Pardon pour cette tautologie, mais à la racine, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec le dédoublement des classes. Plus on prend les racines des inégalités à la base, enfin à la racine, plus on arrive à les traiter.
C'est ce qu'il appelle l'émancipation, Macron.
Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, ça commence à montrer ses vertus. Par ailleurs, effectivement, corriger ensuite quand ça s'est mal passé, corriger le déterminisme social, c'est compliqué. Hein. 7 fils de cadre sur 10 deviendront cadres. Pardon.
Que dites-vous,
c'est pas le même débat.
Si, c'est le même débat. Le déterminisme, enfin, les inégalités sociales,
Les inégalités sociales ne sont pas les inégalités du racisme. Ce n'est pas le même débat.
Non, mais moi, j'ai parlé de déterminisme social. Pour moi, les inégalités sociales, c'est à talent égal ne pas avoir les mêmes chances. Oui. C'est la lutte contre l'inégalité des chances. Et ça, c'est un point qui est très important de pouvoir faire ça. Donc, sur les statistiques techniques, c'est un débat qui mérite d'être posé. Moi, pour le coup, je n'ai pas vraiment d'opinion. Il y a à la fois des problématiques autour de, on risque de stigmatiser des populations, alors que la lutte contre la discrimination, c'est le droit à l'indifférence. Mais en revanche, ça permettrait aussi de lutter contre les fantasmes liés aux attaques contre l'universalisme.
Alors, il reste très peu de temps. Gilles Bernstein, apparemment, ne se dirige pas vers ça.
Non, le testing, moi, je pense peut-être. Que En tout, oui. Le testing peut-être. Oui, oui. Moi, je pense que ça ira.
C'est du détail. Les statistiques, il y a des annonces qui vont arriver quand même là-dessus.
Sur les statistiques ethniques, je n'y crois pas parce que Emmanuel Macron déjà a fait savoir cet après-midi qu'il n'y était pas très favorable. Enfin, son entourage, de toute façon, on le voit. Éventuellement, il était plutôt d'accord avec ce genre de solution pendant la campagne, mais il s'est droitisé. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Enfin, il est plus proche des républicains de son camp, comme Aurore Berger ou comme on peut l'être Manuel Valls. Voilà, universaliste, donc je ne pense pas qu'il ira vers ça. Effectivement, les statistiques ethniques portent un danger, que Marine Le Pen a souligné hier, c'est que c'est une forte incitation ensuite aux discriminations positives. Absolument. Parce qu'une fois que vous avez dit qu'il y a, je ne sais pas, que l'accès au logement, qu'il y a tant de noirs de moins à l'université, eh bien l'incitation est forte de faire de la discrimination positive. Et ça, je ne pense pas que le président de la République y soit prêt.
20h28 sur France Info. Nous reprenons ce débat dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés.
Vu, nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée ?
Point Fort Fichet. Et jusqu'au 30 juin, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point Fort Fichet. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 euros sur les portes blindées Fichet.
Portes, fenêtres, garages, volets, alarmes. On va sécuriser toute la maison. C'est parfait.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
10 ans. Qui peut parier sur ce qui adviendra dans 10 ans ? Eh bien, chez Honda, on n'a pas peur de parier sur l'avenir grâce à la technologie hybride de notre nouveau SUV. Avec le CR-V hybride et ses deux moteurs électriques, Honda vous offre la garantie moteur jusqu'à 10 ans et jusqu'à 6000 euros d'avantage client. On parie sur l'avenir. Et vous ? Cherchez Honda CR-V sur Internet pour réserver votre essai.
Offre accessible aux particuliers et professionnels dans la limite des stocks disponibles et dans le réseau participant jusqu'au 30 septembre 2020 sur CR-V hybride 4 roues motrices immatriculées avec 0 km. Garantie moteur hors batterie, sous réserve du suivi régulier de l'entretien Honda selon les préconisations constructeurs et les indications de l'ordinateur de bord. Détails sur auto.honda.fr.
La météo, Jean-Michel Golinski pour Météo France.
Demain, ce sont à nouveau les régions méditerranéennes qui seront le plus durablement ensoleillées, mais il faudra quand même compter avec l'arrivée de nuages l'après-midi par l'ouest du golfe du Lion, et le vent d'ouest va souffler vers 70 km à l'heure entre le Var et la Corse. Plus haut, les averses vont occuper le terrain une grande partie de la journée entre la Bretagne, la Normandie, le Massif central et les Pyrénées, avec possiblement des coups de tonnerre. Sur les massifs de l'Est, c'est surtout en seconde partie de journée que les averses et les orages vont se manifester. Enfin, sur un axe allant des Hauts-de-France à la région parisienne et de Champagne-Ardenne à l'Auvergne, l'ambiance sera moins menaçante, mais le ciel quand même très variable. Les températures vont afficher 20 à 23 degrés en général sur la plupart des régions, et toujours un peu plus près de la Méditerranée, entre 25 et 27 degrés en général.
(20h30 sur France Info. L'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Petit problème, voilà, à tous. Donc, de nouveaux incidents ce soir dans le quartier des Grésilles à Dijon, après un week-end marqué par des affrontements entre des personnes issues de la communauté tchétchène et des dealers. Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont incendié des poubelles, ainsi que trois voitures. Des renforts de forces de l'ordre ont été envoyés sur place. Comme l'expliquait tout à l'heure sur France Info, François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon.
Maintenant que les Tchétchènes sont partis, les petits caïds de ce quartier, il y en a, et d'autres quartiers de la ville de Dijon et des quartiers alentours sont venus faire de l'autodéfense du quartier en cas de nouvelle attaque tchétchène. Mais les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité d'un quartier. La police nationale, les gendarmes sont en nombre ce soir sur Dijon, c'est très bien. Moi, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, aux forces de police, dont on a besoin, et tous ceux qui aujourd'hui les réclament, souvent les ont insultés et les ont caillassés quand ils intervenaient. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Alors ce soir, ils le sont, tant mieux, et normalement, ils devraient pouvoir à un moment ramener le calme, à condition que tout le monde entende ce message, rentrez chez vous, s'il vous plaît, les Tchétchènes ne sont pas là.
François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon, tout à l'heure sur France Info. La clé d'étranglement à nouveau autorisée pour les interpellations, selon une note du directeur général de la police, cette technologie ethnique continuera donc d'être mise en œuvre avec mesure et discernement, précise la note. Un groupe de travail sera chargé de définir une technique de substitution la semaine dernière. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonçait pourtant la fin de l'utilisation de cette technique très contestée. L'affaire Adama Traoré avec l'avocat de la famille qui demande la nullité de l'expertise médicale rendue le mois dernier, qui disculpait les gendarmes. D'après lui, un médecin a bien participé à cette expertise rendue précisément le 25 mai dernier, mais son nom n'apparaît pas dans le rapport, ce qui serait, selon lui, contraire à la loi. Le ministère du Travail annonce qu'il n'y aura aucun durcissement des règles du chômage partiel à partir du 1er juillet, même si la concertation avec les partenaires sociaux se poursuit. Et puis la responsabilité de la ville de Paris dans l'explosion de la rue de Trévise début 2019, confirmée par l'expertise définitive commandée par la justice, elle est bien due à la rupture d'une canalisation de gaz à cause d'un affaissement du sol. Le drame avait fait 4 morts, c'était en janvier 2019. Il est 20h33 sur France Info, les informés, ça continue. Jean-François Akili et ses invités.
France Info, les informés. Jean-François Akili.
Avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop sur Arte. Maya Daboulos, directrice générale adjointe de Havas Paris. Avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Et Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Nous évoquions à l'instant l'égalité des chances évoquée hier soir par Emmanuel Macron et cette déclaration du chef de l'État, la République qui n'effacera aucun nom ou aucune trace de son histoire. La France ne déboulonnera pas de statut, a ajouté le chef de l'État, alors que l'ancien Premier ministre et actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, lui, propose justement peut-être une relecture de notre histoire. Il veut notamment rebaptiser la salle Colbert de l'Assemblée nationale. Il l'a dit et redit tout à l'heure en direct sur France Info.
Je pense que ma proposition n'a rien d'extraordinaire. J'invite simplement à réfléchir à ce qu'a été vraiment l'héritage colonial. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on enlève la statue de Colbert de l'Assemblée nationale. Je dis simplement que dans cette salle où se réunissent les députés du groupe majoritaire qui s'appelle Colbert, mais qui a été inauguré en 1932, qu'on pourrait se poser la question de changer le nom, de donner un nom, par exemple, de Césaire ou d'autre, une autre personnalité.
Césaire plutôt que Colbert, Nora Hammadi, commentaire.
Bah écoutez, je trouve assez intéressant ce qui est en train de se passer autour du déboulonnage des statuts, sachant que c'est un mouvement mondial, hein, au même titre que celui en fait sur les violences policières, les racismes.
Vous dites intéressant, vous validez le déboulonnage.
Non, c'est pas ce que je dis. Je ne valide absolument pas. Je dis que ce qui est intéressant en fait, c'est la symbolique autour de ça. C'est que à défaut de poser la question de l'héritage colonial, de la décolonisation, de cette histoire esclavagiste, par exemple aux États-Unis, mais de la décolonisation que ce soit en Belgique, que ce soit en France, etc. On ne veut pas poser ce débat et de fait, on finit par avoir des déboulonnages de statuts. Et à un moment, il va véritablement falloir se poser et essayer, dans la mesure du possible, d'avoir ces débats sur l'héritage colonial, sur où est-ce qu'on en fait des rapports entre minorités afrodescendantes et majorités, si je puis dire, plutôt d'héritage gaulois. De fait, comme on est aujourd'hui dans une espèce de tension qui ne permet pas ce débat de manière dépassionnée, on en arrive en fait à déboulonner des statuts et à demander de débaptiser, etc. Il faut remettre du contexte, il faut remettre de l'intelligence et il faut dépassionner ça et accepter en fait d'ouvrir ces débats.
Il y a des cours d'histoire dans les écoles. Hein,
alors écoutez, moi je suis désolée, on m'a beaucoup dit encore gamine que mes ancêtres étaient des Gaulois. Je vous rappelle, enfin, on est à la télévision, on voit bien que potentiellement mes ancêtres ne sont pas Gaulois. Que sur la question des événements d'Algérie, la question de la torture n'a pas été posée avant des années. On a encore aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe au Rwanda. L'héritage les archives de Mitterrand vont être rouvertes sur la France-Afrique et la manière dont la France a géré ce génocide.
Bien.
Donc, en fait, cette question de l'héritage de la France et du colonialisme et de la France-Afrique doit être posée.
J'entends bien votre
argument. Pour ne pas en arriver là.
J'entends bien vos arguments. Il faut de la pédagogie, dites-vous, pour qu'on comprenne l'histoire. Nora Hammadi, Éric Delannoy, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Colbert, successeur de Mazarin, principal ministre d'État de Louis XIV, doit-il aujourd'hui être frappé d'indignité nationale ?
Alors moi je vais pas me prononcer sur le sujet, mais en fait non, pour une raison simple, c'est que je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut affronter l'histoire plutôt que la nier. Il faut prendre en compte la personnalité complexe des gens et de leurs engagements. On a aussi mis en cause Luc Ferry, on a aussi mis en cause Churchill. Enfin je veux dire, personne n'est totalement homogène dans ses engagements pendant toute une vie, surtout dans des contextes sociaux et des contextes politiques qui sont très différents. Du coup je pense qu'il faut plutôt faire effectivement de la pédagogie, mais certainement pas s'amuser à virer des gens sous prétexte que, bon, cela dit, quand on a une statue, c'est pour célébrer quelqu'un, c'est pour créer un référentiel, et ce que traduit ce mouvement que personnellement je conteste un peu, c'est qu'on manque de repères et qu'on manque de référentiels.
Nora m'a dit, on a bien compris vos arguments ainsi que vous-même, Éric Delannoy. Maïa Daboulos, quand Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, préférerait Césaire que Colbert, est-ce qu'il faut en arriver là aujourd'hui ?
En tout cas, moi, ce qui me réjouit, c'est pas du tout le déboulonnage des statues, et je comprends très bien la volonté du président de la République de dire stop un peu aux excès qu'il peut y avoir dans ce débat. Mais en revanche, je suis contente que le débat puisse avoir lieu. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même l'avait un peu lancé au début de son quinquennat, quand par exemple il parlait de la restitution des œuvres d'art à l'Afrique, de certaines œuvres d'art. C'était une manière aussi de lancer le débat. Donc non au déboulonnage ou à la remise en question de tout notre passé, plutôt l'affronter que de le nier. Mais en revanche, en acceptant un débat, comme le disait Nora, dépassionné sur ces questions.
Et Gilles Bornstein, un tel débat s'organise, j'imagine.
Oui, un tel débat s'organise. Moi, je trouve ça vraiment à la fois passionnant et extrêmement compliqué, et très compliqué de tirer des conclusions générales. Quand on dit il faut, de toute façon, on ne peut pas effacer le passé, et pourquoi déboulonner les statues ? Étudier, comme le propose Nora, et célébrer, comme lui fait une statue, c'est pas la même chose. Donc moi, l'idée qu'on arrête de célébrer celui qui, je crois, a instauré le code de l'esclavage, le code noir France,
ouais. Oui, le code noir,
ne me paraît pas totalement scandaleux. À qui ? Est-ce que s'il y avait une statue d'aujourd'hui de celui qui a instauré le statut des Juifs en 40, ça ne tiendrait pas 10 secondes et personne ne se poserait la question de savoir s'il faut ou non pas le débaptiser. Il serait débaptisé instantanément. C'est pas pour ça qu'on n'étudierait pas le nazisme ou Vichy dans les livres d'histoire. Donc étudier est une chose, célébrer est une autre, et objectivement, je n'arrive pas à trouver complètement incongru, j'ai pas la réponse, je dirais pas oui ou non, mais je ne trouve pas complètement incongru qu'on puisse déboulonner. Et quant aux personnages, on dit que l'un, ils ont été plusieurs choses à la fois. La même chose, on a vu le même débat sur Pétain. Quand les uns voulaient débaptiser des rues Pétain, on disait, mais Pétain, c'est 40, mais
faut-il
c'est aussi le vainqueur
de la guerre de 14-18 ou le collaborateur de...
Il est admis aujourd'hui que le Pétain de 40 a effacé le Pétain de 14. Voilà, donc je pense que tout est... C'est assez compliqué de tirer des propos généraux.
Maïa Daboulos ?
Non, ce qui est juste intéressant de constater, et Nora il faisait allusion au tout début, c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle d'indépendance, de souverainisme, de patriotisme, etc., le pays est traversé par des grands débats qui sont exactement les mêmes que dans le reste du monde. On a affronté une épreuve, le Covid, et on l'affronte toujours pareil, en même temps, c'est la première fois qu'on est tous confinés comme ça. On parle des violences policières comme on en parle partout dans le monde. On parle de la question de la relecture et de la contextualisation de l'histoire, pareil, comme partout dans le monde.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une forme de... c'est finalement les bienfaits de la mondialisation et de la globalisation. C'est qu'on s'identifie, en fait, même quand il y a un océan entre nous, avec une histoire collective et avec un héritage commun.
Allez, 20h40 sur France Info, c'est le Fil Info avec vous, Emmanuel Langlois.
Et ces nouveaux incidents ce soir en fin de journée à Dijon, dans le quartier des Grésilles. Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont incendié 3 voitures et des poubelles. Des heurts qui surviennent après de violents affrontements qui ont lieu tout ce week-end entre des membres de la communauté tchétchène et une bande de dealers présumés de Dijon. Ce soir sur France Info, le maire de Dijon, François Rebsamen, appelle au calme. Il dénonce des faits inacceptables et a demandé des renforts de police pour assurer la sécurité, la tranquillité des habitants. L'affaire Karachi avec la justice qui condamne les 6 prévenus dont Nicolas Bazir, Renaud Donne-Dieu de Vabre et Ziad Takieddine notamment à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme. Édouard Balladur et François Léotard seront eux jugés ultérieurement par la Cour de justice de la République. Une dette qui s'aggrave et une première pierre pour la réforme de la dépendance. L'Assemblée a entamé l'examen d'un texte qui creuse fortement le trou de la sécu après le coronavirus. Elle prévoit une nouvelle branche
dimanche consacré à la perte d'autonomie. La justice a choisi, ce sera Rossel, propriétaire déjà de la Voie du Nord, qui reprendra Paris-Normandie au grand soulagement des salariés, même si un quart de l'effectif du quotidien en grande difficulté sera supprimé au terme de ce plan. Et puis à l'étranger, le fait que Donald Trump l'ait testé n'y a rien fait. Les États-Unis retirent l'autorisation d'urgence accordée à l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. L'Agence américaine du médicament estime que le traitement antipaludéen est probablement inefficace contre ce nouveau coronavirus.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Voilà, nous continuons ce débrief, si je puis dire, de cette allocution d'Emmanuel Macron qui nous a invités à se réinventer, y compris lui-même hier soir. Mais tout d'abord, un mot à l'écoute du récit à l'instant d'Emmanuel Langlois. Éric Delannoy, quand l'on voit la sollicitation des forces de l'ordre mobilisées, alors là, pour le coup, pour ces incidents inédits survenus à Dijon, qui opposent des Tchétchènes qui, paraît-il, sont partis de la ville, ont quitté la ville à des bandes locales. Est-ce à dire que Emmanuel Macron a eu raison, selon vous, de rendre un hommage appuyé hier soir aux policiers et aux gendarmes ?
Ah ben moi, enfin, je vais vous dire, Emmanuel Macron a eu raison, quels que soient les événements d'aujourd'hui. Si vous voulez, enfin, je veux dire, ça serait dommage qu'un président de la République ne rende pas hommage aux forces de l'ordre, compte tenu du fait qu'elles sont mobilisées de manière extrêmement forte depuis maintenant un an et demi. Donc, je pense que les événements de Dijon ne donnent ni raison ni tort. C'est simplement la traduction qu'il y a une difficulté à faire respecter l'ordre public. Et que, en tout cas, c'est pas en affaiblissant les forces de l'ordre qu'on va faire respecter mieux l'ordre public.
Nora m'a dit des Tchétchènes venus d'Allemagne, de Belgique, de France. C'est un épisode inédit, on peut le dire.
Alors écoutez, je ne suis pas une spécialiste des mouvements migratoires des Tchétchènes, mais écoutez, ce que je peux dire en attendant pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que sur la dimension en fait de comment la police en fait a été mise à contribution ces dernières années, on sait à quel point le mouvement social été important, etc. Mais on sait aussi, et c'est d'ailleurs ça qui va être nécessaire au-delà de la réforme de l'hôpital, de la nécessité de reconsidérer en fait les statuts de certains fonctionnaires, de certains corps, on sait à quel point les forces de l'ordre travaille dans des conditions extrêmement difficiles. On estime qu'il y a un suicide tous les 3-4 jours, ou une tentative de suicide tous les 3-4 jours au sein du corps policier. On sait à quel point ils n'ont pas les conditions nécessaires pour travailler. Et c'est aussi ça, en fait, qu'il faut comprendre derrière la nécessité, en fait, de reconnaître à la police qu'il y a effectivement des brebis galeuses, et on l'a vu dans des groupes Facebook, etc., etc. Il y a des paroles qui ne sont pas celles qu'il faudrait avoir, de fait. Mais cela ne doit pas entacher en fait l'intégralité d'un corps. Il y a aussi là-dessus de la pédagogie à faire, une nécessité de formation autour d'un passif qui est celui de la colonisation française et de Maurice Papon, de ce qui s'est passé en fait en France dans les années 60. Et de fait, il va falloir poser aussi ces débats. Tout ça pour dire que je ne sais pas ce qui se passe avec ces Tchétchènes à Dijon, mais quoi qu'il en soit, le corps policier en fait doit aussi en fait poser le débat en interne sur ces questions de telle sorte en fait à faire le ménage sur ce qu'il faudrait faire. Et d'inventer peut-être une nouvelle séquence.
Oui, nous venons de voir, pour ceux qui nous écoutent, ces images de tension ce soir dans la ville de Dijon, et le maire de Dijon, François Rebsaben, qui appelle les habitants de façon assez incroyable à rester chez eux. Maya Daboulos, sur la question des forces de l'ordre, des forces de sécurité, très mise à mal, très contestée, très critiquée ces dernières semaines. Il y avait besoin d'une clarification au plus haut niveau du chef de l'État. C'était dans l'allocution présidentielle hier soir.
En tout cas, il y avait un besoin dans ce corps de policiers de réaffirmation de l'attachement et de soutien après les épisodes et les différents discours de Christophe Castaner. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que dans la population, que ce soit documenté ou pas, il y a un ressenti de violence policière, il y a un ressenti de discrimination et il faut en tenir compte. Alors attention, les policiers sont encore soutenus par la population. 69% des Français soutiennent la police. On pourrait dire que c'est haut, on pourrait aussi dire, un, que ça a baissé, deux, que c'est plus bas que d'autres corps qui ont aussi le monopole de la violence légitime, comme par exemple exemple les gendarmes. Comme par exemple les gendarmes qui sont soutenus à hauteur de 85%.
Non, je dis est plus bas qu'à l'étranger.
Plus bas qu'à l'étranger.
Absolument.
Les Anglais et les Allemands soutiennent davantage leur police que les Français soutiennent la leur.
Mais les Anglais et les Allemands soutiennent davantage leur État, leur gouvernement de manière générale, leurs institutions que les Français. Donc en fait,
il y a un souci.
Alors, voilà. Toujours est-il que le chef de l'État hier soir a donné en quelque sorte rendez-vous au mois de juillet pour le deuxième étage de sa fusée ou la suite de son allocution, comme vous voulez, lui qui a parlé hier soir d'un nouveau chemin.
Et les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris, dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même.
Traduction, Gilles Bernstein. Se réinventer, je me l'applique à moi-même.
Traduction, on verra en juillet. Moi, j'ai pas l'impression que la réinvention ira très loin, parce que j'ai le sentiment, je ne sais pas ce qu'en penseront mes camarades, j'ai le sentiment que, comme depuis le début du quinquennat, à chaque crise, on nous explique que le problème n'est pas l'excès de macronisme ou le macronisme, mais le pas assez de macronisme ou le macronisme empêché. C'est comme l'avenir radieux. Si les fonctionnaires se bougeaient plus, si ceci, si cela, eh bien le projet présidentiel aurait pu donner toutes ces dimensions et on en serait là. Moi, je ne crois pas au grand tournant socialiste et écologique pour deux raisons, mais extrêmement simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas écologiste et il n'est pas socialiste. Donc évidemment, il entend la société, il y aura des accousquis, des tout ce que vous voulez, il y aura quelques mesures écologiques, quelques mesures sociales, quelques mesures souverainistes. Je n'ai pas l'impression que le logiciel va changer. Bon, on le sait, Emmanuel Macron a rencontré des gens pendant ces 15 derniers jours et des propos ont fuité. Et puis, on entend les responsables de la majorité dire les uns après les autres, il ne faut pas se renier, il faut approfondir, il faut aller plus vite. Donc moi, je ne sens pas la réinvention. Je n'ai pas l'impression qu'elle va être, que ça va être l'effet, c'était quoi? C'était l'effet waouh?
Waouh, c'est ça.
Je ne sens pas un effet blast.
Enfin, blast, effet blast.
Voilà, oui. Je ne sens pas d'effet blast. Dans la future, à venir, dans la future réinvention.
Éric Delannoy, la réinvention d'Emmanuel Macron par lui-même, pour lui-même, y compris le président.
C'est des mots qui sont effectivement très à la mode. Maintenant, au contraire, je pense qu'il va se passer un certain nombre d'initiatives un peu fortes. J'en suis même absolument convaincu autour de la régulation du capitalisme. Il y a des choses qui ont été faites. Hein. On parle d'effet blast, mais s'il y avait eu un peu mieux de pédagogie, de la meilleure pédagogie autour des politiques qui ont été mises en œuvre, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et peut-être s'il n'y avait pas eu. Ah, mais enfin, moi, je peux vous faire toute la liste.
Lesquelles demandes, Nora Madi?
Ah, enfin,
la suppression de l'ISF.
La suppression de l'ISF, par exemple. Oui, la mise en place de la flat tax. On peut le plan pauvreté. On peut mettre en place le plan santé. On peut identifier. Mais
santé pour lesquels, en fait. L'hôpital va descendre encore dans la rue demain.
Je suis d'accord pour dire qu'il ne s'est rien fait. La régulation du code du travail qui a été modifiée. Je peux vous dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vachement plus facile d'entreprendre aujourd'hui.
C'est de la dérégulation.
C'est une simplification.
C'est
de la simplification de fonctionnement qui a été faite.
Donc quand on s'attaque, vous trouvez, Éric Delannoy, que le millefeuille est simplifié aujourd'hui?
Non, mais le millefeuille, d'ailleurs, il a admis qu'il y a eu beaucoup de lourdeur pendant la crise. Aujourd'hui, l'État, s'il a failli, c'est dans ses processus de décision. L'intermissaire fonctionne pas bien, ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est certainement pas Emmanuel Macron qui l'a mis en place. Donc on peut pas non plus le taxer de tous les maux de ce qui date depuis 30 ans. Néanmoins, ce que je peux vous garantir, c'est qu'en termes de régulation, quand on parle de la loi PAC, c'est une excellente loi, la loi PAC, par exemple, dans laquelle il y a énormément de choses sur la simplification et non pas sur la dérégulation et sur le fait d'essayer de faire une bifurcation du capitalisme pour mieux le réguler. Ça, c'est indéniable. Je suis aujourd'hui société à mission. Les sociétés à mission, c'est une chose unique. Enfin, c'est un statut unique en France, unique en Europe, qui n'existe nulle part ailleurs et qui essaie de faire prendre en compte les environnements sociaux et environnementaux dans la préoccupation des actionnaires. Ce n'est pas un vœu pieux.
Pardonnez-moi, je vous coupe la parole, Éric Delannoy. 20h50, le temps tourne. C'est le Fil Info avec vous, Emmanuel Langlois.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonçait pourtant la semaine dernière la fin de l'utilisation de cette technique très contestée. La clé d'étranglement est finalement à nouveau autorisée pour les interpellations. Selon une note du directeur général de la police, cette technique continuera d'être mise en œuvre avec mesure et discernement, dit-il. Retour à une vie presque normale en France, où le gros de l'épidémie est passé. Les écoles et les collèges accueilleront donc tous les élèves à partir de lundi prochain, avec désormais une distance d'1 mètre latéral entre chaque élève et non plus 4 mètres carrés. Précision du ministre d'Éducation Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. En Ile-de-France, l'attestation employeur, elle ne sera plus obligatoire dans les transports en commun aux heures de pointe à partir de demain mardi, à la suite du passage de la région en zone verte. Martine Vassal contre-attaque après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fraude aux procurations à Marseille, indirectement visée. La candidate Les Républicains à la mairie de Marseille suggère en effet l'annulation de toutes les procurations déposées pour, dit-elle, gagner à la loyale. En Chine, le rebond peut-être du Covid-19 à Pékin, une centaine de nouveaux cas ces derniers jours dans la capitale chinoise, en partie liée à un marché géant dans le sud de Pékin. Ce rebond a entraîné de nouveaux confinements, de zones résidentielles de la ville et des dépistages supplémentaires. Des sites sportifs et culturels ont également été refermés. Enfin, après 3 mois de fermeture, la Tour Eiffel se prépare à rouvrir ses portes. Ce sera le 25 juin, dans 10 jours précisément. La Dame de Fer qui espère attirer des franciliens, souvent découragés par les longues files d'attente de touristes étrangers.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Tiens, Jean-Luc Mélenchon a dit à Marseille, aux médias présents, ce qu'il a pensé de cette allocution des images de nos confrères de BFM TV.
Nous sommes tous convoqués, tout le monde se met devant sa télé, on écoute, il parle beaucoup, mais il dit rien. C'était un peu contrariant, je crois que j'ai pas été le seul à ressentir cet agacement. Bon, après, il faut fouiller au milieu de tout ce qu'il a dit. Je mets de côté ce bric-à-brac de mots qu'il a emprunté à tout le monde sur la reconstruction écologique du pays. Après, c'était... Enfin, tout. On avait tous l'impression de s'être fait faire les poches dans son discours.
Voilà le style Mélenchon. Maya Daboulos, Emmanuel Macron doit clarifier les choses le mois prochain. Il y a beaucoup d'explications attendues sur pas mal de sujets finalement. C'est ce que dit au fond le leader de la France Insoumise.
Oui, absolument. Bon, il doit clarifier les choses. Il a lui-même dit en fait qu'il ferait un discours et qu'il reviendrait devant les Français pour parler. Il a évoqué l'écologie, la souveraineté, la solidarité. On peut pas faire comme si... Alors je suis d'accord, Emmanuel Macron n'est pas un écolo de la première heure. Mais le fait d'en parler n'est pas anodin non plus. On peut pas faire lui reprocher de mettre le sujet à l'ordre du jour et lui reprocher de ne pas en parler quand il n'en parle pas. Au fond, Emmanuel Macron est quand même à l'écoute de la société et la société a beaucoup évolué sur cette question. Il me semble que il y a quand même quelque chose qui va changer dans les prochains mois, ne serait-ce que parce que nous rentrons en campagne électorale et ça n'est pas anodin.
Vous voulez dire quoi? La machine à promesses va redémarrer, c'est ça?
Pas seulement la machine à promesses, la machine à élaborer des idées nouvelles aussi.
Ça fait rire Éric Delannoye,
oui. Non, mais je comprends très bien. Enfin, je veux dire, on pourrait voir les choses de différentes manières, mais ça peut aussi être un moment où une réflexion est lancée sur certaines questions et un moment où on met à l'approbation des Français des idées un peu plus disruptives.
Vous êtes dubitative, Nora Madi?
Oui, je suis dubitative parce que de fait, il y avait des attentes concernant en fait le plan d'urgence et le plan de relance qui va être lancé, alors que ce soit en France et au niveau européen, et la question des conditionnalités, en fait, notamment sur la mise en œuvre des aides via pour l'écosystème automobile ou pour l'écosystème aérien, était quand même le service ultra minimum. À un moment, vous pouvez pas faire un chèque en blanc, entre guillemets, ou même un prêt de 7 milliards d'euros sans mettre en place des conditionnalités écologiques sur Renault, sur Air France, etc. Prenez les Allemands, les conditionnalités, on n'y est peut-être pas, mais quand ils mettent en place un plan de relance, eux, leur objectif, c'est de devenir les premiers sur l'hydrogène et sur les batteries à hydrogène d'ici quelques années. Donc, quand on dit, et les Allemands sont plutôt pragmatiques et ne sont pas, en fait, pour le coup, les premiers écolos non plus. Donc, on a quand même, en fait, une coalition sociale-démocrate et conservatrice qui, à un moment, fait en sorte que les choses bougent. Donc, alors, de fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de le slogan et sur le papier, on n'a pas vu grand-chose, notamment, en fait, dans cette période sur ces plans de relance.
Alors, en creux de la réinvention de hier soir, il y avait évidemment la question du remaniement. Question posée dans le 1850 France Info à Stéphane Séjourné, eurodéputé de La République En Marche et proche du président de la République.
Ça sera le président de la République de voir, mais en tout cas, mon souhait, c'est que effectivement, on en tire les conséquences politiques, et puis que peut-être, ça sera le président de le décider. Il y aura un changement d'équipe.
On entend ça clairement, hein, Gilles Bronstein. Bientôt, il y aura ce remaniement qui arrive, qui est sur la table. La question, c'est toujours la même avec ou sans Édouard Philippe. Vous l'évoquiez dès hier soir.
Bah, Stéphane Séjourné, lui, c'est clair. C'est sans Édouard Philippe. Quand il vous dit, il faut tirer les conséquences politiques.
Vous l'entendez sans... comme ça, hein.
Ah, bah, je suis, bah, d'ailleurs, je sais qu'il le souhaite. Enfin, je pense qu'il le souhaite. Il fait partie de la bande, de la partie de la majorité que vous appelez bande de Poitiers, comme vous voulez, qui vient du Parti Socialiste autour de Stéphane Séjourné, de Gabriel Attal, de Sacha Houlier, de Guillaume Chiche, enfin, qui était le groupe, qui pense qu'il faut vraiment réinventer le macronisme en le dépassant et que ça passe par un changement de Premier ministre. Seront-ils entendus ou pas? Parce que d'abord, le Premier ministre veut rester et que franchement, Emmanuel Macron doit voir que les Français ont plutôt envie de garder leur Premier ministre. Est-ce qu'ils seront écoutés ou pas? Mais clairement, il y a dans la majorité une partie qui milite pour ça.
Éric Delannoy, il va falloir donner un coup de balai sur ce gouvernement. Il faut des nouvelles têtes, des nouveaux visages, sans utiliser de clé d'étranglement pour sortir les ministres, hein, bien sûr.
Enfin, je parlerai pas de coup de balai, mais peut-être faut-il donner un coup de neuf pour pouvoir redonner surtout une impulsion. Enfin, c'est très compliqué de sortir de ce qu'on vient de vivre là en donnant une impulsion avec les mêmes. Le plan de relance, ça va être tout un ensemble de mesures qui vont être prises pour pouvoir faire en sorte de contenter tout le monde. Choc de l'offre, choc de la demande. Il est clair qu'il faut peut-être des nouvelles compétences, un nouveau regard et des nouvelles propositions sur la table.
Maya Daboulos, il faut un toilettage nécessaire de fond en comble pour essayer de faire repartir ce quinquennat d'ici la présidentielle.
Je ne poserais pas la question comme ça, je me dirais plutôt effectivement un changement de Premier ministre, pourquoi pas, mais la question est pourquoi faire. En réalité, un changement de PM, c'est pas juste de Premier ministre, c'est pas seulement une question de casting, c'est pas seulement une question de personne. Il faut que ça ait un sens politique. Donc s'il choisit un autre Premier ministre, il faut qu'il l'explique. Ce que ça va changer politiquement et en quoi ce nouveau premier ministre ou cette première ministre pourrait avoir comme conséquence.
Changer c'est bien, mais comme l'a dit Gilles Boyer, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Une fois que vous avez dit ça, personne n'est d'accord franchement, il n'y a pas de noms géniaux qui viennent.
Il y a la problématique du banc de touche qui est l'éternelle problématique d'Emmanuel Macron et de En Marche. Et puis en fait, effectivement, Maya Daboulos le rappelle. En fait, c'est quel est le projet derrière. On sait très bien que ce genre de choses n'imprime pas chez la plupart des Français à partir du moment en fait où on est dans un business as usual et où il a dit qu'effectivement il allait se réinventer, mais se réinventer vers quoi?
Allez, c'est le mot de la fin. C'était sympa, avec un petit bruit de bouche.
Oui.
Merci à tous les quatre, Nora Madi, Maya Daboulos, Gilles Bornstein et Éric Delannoy d'avoir participé à cette édition des Informés.